encore une fois, ce n'est pas quelque chose que vous et moi pouvons faire par nous-mêmes. Donc, je le répète, si je suis un exemple pour vous, c'est à Dieu de le dire, ou à vous, je ne veux pas dire que j'en suis un ici, si je vous donne un exemple de force, alors c'est parce que c'est Dieu qui met en moi cette puissance, la même qu'il met en vous, ou qu'il a déjà mis, ou qu'il mettra. Alors il m'est absolument impossible pour moi, là, de concevoir, et j'ai plus de respect, bien entendu, et de compassion pour ceux qui ont à traverser ce genre d'épreuve-là, y compris mes enfants présentement. Donc, je ne peux pas imaginer pouvoir traverser une telle épreuve seulement basée sur la puissance humaine, encore moins le faire. Et je ne parle pas ici seulement de l'instant ou du moment de la mort de mon épouse, mais c'est de l'ensemble de l'épreuve qui est absolument incroyable. Alors, je regarde par l'arrière et je trouve encore plus étonnant lorsque je regarde vers l'arrière que ça l'était alors que je traversais cette épreuve. Et je pense que je peux dire que c'est vrai de tous ceux qui étaient aussi près de mon épouse. On pourrait presque dire que chaque page devenait un chapitre, et plus ça allait, plus les chapitres formaient un livre jusqu'à ce qu'il soit complet. Et je peux vous dire que c'était un livre qui était plutôt long. Et tout cela sans jamais réellement savoir comment ça finirait, sauf lorsque nous étions tout près de la fin. Alors rendons-nous maintenant dans Psaume 34, 14, qui ajoute un élément nouveau, psaume 34, 14. En fait, ça peut être psaume 34, 13, dépendant des versions. Donc, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Alors, c'est une phrase qui peut avoir plusieurs sens ici. Je vais d'abord vous donner un sens qui n'est pas ce qu'on pourrait appeler le sens primaire. Autrement dit, c'est recherche la paix. Hein? Recherche la paix avec les autres personnes et poursuis-la. Ensuite, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre, bon, ainsi de suite. Alors, poursuis la paix. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Bon, pour vraiment savoir, rendons-nous dans Hébreux 12. Et nous allons aller au verset 14. Hébreux 12 et au verset 14. Donc, cherche la paix et poursuis-la. Comme j'ai dit, ce n'est pas le sens primaire dont je veux parler pour commencer, malgré que ce soit ce que je pourrais appeler la seconde plus importante signification. Et c'est quelque chose de très important. Nous allons développer ça un petit peu avant d'aller voir le sens primaire de tout cela. Alors, versets 11 et 12 parlent de ceux qui ont reçu une correction et qui se sentent plutôt abattus, hein? C'est le genre de choses qui m'est déjà arrivé. La majorité des gens ne savent pas réellement comment corriger d'autres personnes. J'ai déjà moi aussi fait des erreurs à cet égard. La correction n'est pas toujours obligée d'avoir l'air d'un châtiment, malgré que c'est jamais quelque chose d'agréable. Et dans un certain sens, c'est un peu pour nous tester, à savoir si oui ou non nous allons être considérés comme des enfants illégitimes, comme c'est marqué au verset 8, ou comme des enfants de Dieu. Donc, le verset 12 dit: Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. C'est un peu comme ça qu'on se sent lorsqu'on reçoit une correction. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse ou soit guéri. Et au verset 14: Recherchez la paix avec tous les hommes. Et vous vous rappelez, sinon voir dans Psaume, on dit: Recherche la paix et poursuis-la. Et on nous dit de poursuivre le royaume de Dieu. Alors, c'est un point intéressant ici. Lorsque ce royaume va venir, il y a deux éléments qui en font partie. Il y a l'élément du gouvernement et de la paix. Ce n'est donc pas étonnant si on vous dit de chercher, premièrement, le royaume de Dieu, qu'on vous dise dès maintenant dans votre vie, si vous êtes en train de vous qualifier pour un jour vous asseoir sur un trône et administrer la paix. Ce n'est donc pas étonnant qu'on vous dise: recherche la paix et poursuis-la. Vous devez faire cela dans votre propre vie, car c'est inséparable de l'Évangile. Recherchez la paix. Donc, de toutes les choses qui seront apportées par ce grand gouvernement mondial de Dieu, l'abondance, la prospérité, le bonheur, il n'est pas étonnant qu'elle apporte également la paix. recherche la paix et poursuit-les. Et dans le Nouveau Testament, il n'est donc pas non plus étonnant qu'on retrouve au verset 14 « Recherchez la paix avec tous ». Alors, essayons d'aller un peu plus loin encore et rendons-nous dans Romains 12. Nous sommes dans Hébreux 12. Maintenant, nous allons nous rendre dans Romains 12. Alors, Romains 12 ajoute quelques éléments et nous allons jeter un coup d'œil à une couple de places dans Romains. Et au verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien. » L'anglais, la King James, le traduit par « honnête » devant tous les hommes. Et on n'a pas beaucoup d'honnêteté alentour de nous aujourd'hui. Si vous essayez constamment de toujours être honnête dans ce que vous dites et dans ce que vous faites, généralement, en tout cas pour les gens pour qui c'est important, ça devrait vous donner un sentiment de satisfaction à la fin de la journée. Recherchez ce qui est bien, honnête, devant tous les hommes. Alors, il y a des fois qu'on dit des choses qui sont peut-être stupides, et tout le monde le fait, mais essayez d'être fondamentalement honnête. Et vous allez vous apercevoir, en fait, que les gens vont être capables de voir à travers les brèches, si vous voulez, et toutes les erreurs qu'on peut faire. Et si vous faites cela, et on voit après, s'il est possible, autrement dit, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire toujours, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Recherchez la paix et poursuivez-la. Donc, soyez en paix avec tous les hommes, mais il y a quand même une exception. Il est écrit ici, s'il est possible. Si vous rencontrez quelqu'un qui est férocement en colère, que ce soit à cause de la rage au volant, ou un voisin qui est féroce, ou toute autre occasion, il est possible que vous ne soyez pas en contrôle parfait et que vous soyez obligé d'utiliser peut-être d'autres principes. Le sage s'empare des âmes, par exemple. Alors, vous pouvez peut-être recommander la paix à votre voisin et le dénouement va peut-être être heureux et joyeux pour tout le monde. Alors, en autant que c'est possible pour vous, faites tout ce que vous pouvez pour être en paix avec tous les hommes. Alors, c'est un verset qui, pour moi, est très important, parce que nous allons avoir à dire des choses qui vont être si terribles et si difficiles à porter pour le monde qui va les entendre. Des choses qui vont être tellement frappantes, et du point de vue de ceux qui vont les entendre, des choses dont ils ne veulent même pas entendre parler. Des choses tellement sombres et noires. Je sais très bien que je devrais dire des choses les plus dures de toute ma vie, bien pires que celles que je n'ai jamais eues à dire jusqu'à maintenant. Ce serait donc vraiment important que nous, en tant qu'Église, le fassions sur un fond qui sera perçu par les gens comme ne venant pas d'une bande d'enragés bibliques, mais d'une Église qui, lorsque vous regardez à l'intérieur, vous retrouvez une paix extraordinaire. Nous ne sommes pas des terroristes spirituels. Nous sommes des gens qui aimons les autres personnes. Et lorsque vous venez à l'intérieur de notre communauté, c'est renversant. Simplement parce que nous représentons le Dieu de paix. Mais nous avons des choses à dire qui sont extrêmement, extrêmement difficiles. Et ensuite, ça continue dans le contexte, au verset 19. « Ne vous vengez point vous-même. » Notre travail à nous est de vivre en paix avec tous les hommes. Donc, ça ne va pas de pair réellement avec la vengeance ici. Mais laissez agir la colère. Alors, on n'est pas en train de dire ici de laisser la place à la colère. Laissez-lui de la place dans votre propre vie. Non. Ça veut dire, lorsque vous êtes en présence d'un tel phénomène, reculez-vous. Laissez de l'espace entre les deux. Car il est écrit « À moi la vengeance ». Donc, si vous êtes en présence de colère, cette colère-là va être rencontrée, va faire un face-à-face avec la colère, mais ce ne sera pas la nôtre, ça va être celle de Dieu. Donc, il s'agit ici d'une déclaration pour la paix. Et c'est Dieu qui dit que c'est moi qui va venger. Mais en ce qui nous concerne, et ce que nous devons faire, le verset 20 nous dit « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire. » Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, continuons maintenant. Nous allons nous rendre au chapitre 14 et au verset 19. Alors, vous pouvez vous rendre compte combien de fois on retrouve cela dans les Écritures. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Les gens ne seraient pas tellement édifiés par notre comportement si celui-ci n'était pas généralement paisible. Il peut arriver parfois que vous soyez fâché dans certaines circonstances, mais d'une façon générale, ce que nous devons faire, c'est rechercher des choses qui contribuent à la paix. Les deux versets précédents nous disent « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix. » Ce qui inclut de toute évidence la justice et la joie. Mais la pièce maîtresse que nous voyons dans le verset 19, c'est ce qui contribue à la paix. Et c'est aussi ce que nous voyons dans le verset 17, justice, paix et joie. Et c'est tout à fait en accord avec d'autres versets que nous avons lus jusqu'à maintenant. Alors maintenant, nous sommes prêts à jeter un coup d'œil sur d'autres points particuliers. Rendez-vous à Colossiens 3. Mon épouse a été dans l'œuvre de Dieu pendant 43 ans et 10 mois au moment où elle est morte. Elle avait été baptisée tard au mois de septembre 1963. Quant à moi, je l'ai été en décembre 1967. Alors, bien qu'elle fût 3 ans et 7 mois plus âgée que moi, elle était mon aînée de 4 ans et 3 mois dans la foi. J'avais donc l'habitude de lui dire « Je vais devoir continuer pendant 4 ans et 3 mois pour seulement te rattraper si tu t'en vas. » Sans compter que tu as été dans l'Église pendant des années avant ça. Moi, je suis venu à l'Église seulement un an et demi avant d'être baptisé. Quant à elle, elle avait appris, elle avait connu la vérité environ 4 ans avant d'être baptisée. Et elle a été baptisée 4 ans et 3 mois de plus longtemps que moi. Alors, elle se demandait pourquoi, quelles étaient les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas continuer. Et j'ai dû lui expliquer. Elle avait fait quelque chose plus longtemps que la majorité de toutes les autres personnes dans l'œuvre de Dieu auparavant. Je me souviens lui avoir dit, « Tu es âgé de 62 ans, et tu peux regarder ça de deux façons. Si tu meurs, alors tu es jeune. Tu n'as que deux fois l'âge de Jean-Baptiste. » Et ça l'avait profondément frappé. Deux fois l'âge, en passant, de l'homme le plus grand qui ait jamais existé. On sait que Christ est rendu jusqu'à 3 ans, 33 ans et demi. Jacques n'a pas dû se rendre beaucoup plus loin, d'ailleurs. Il s'est fait transpercer par une épée, dans Actes 12. Il y en a un grand nombre qui n'ont pas eu de longue vie, incluant la femme d'Ézéchiel, en passant, comme je l'ai déjà mentionné. Alors, c'est une façon de regarder les choses. Si vous le regardez de l'autre côté, par exemple, ma belle-mère, moi, sa mère, qui est la plus jeune dans sa famille, est âgée de 89 ans. Et les sœurs de mon épouse sont âgées de 65 ans et de 68 ans. Alors, de quel côté est-ce que vous voulez regarder ça? Alors, c'est sans doute la clé pour toute chose ici. Alors, c'était très difficile pour elle d'être capable d'appliquer le verset que je vais vous citer là, maintenant. Nous l'avons lu un très grand nombre de fois jusqu'au moment où elle a finalement réalisé ce que ce verset-là voulait dire. Pourtant, elle avait lu ce verset-là de nombreuses fois. Mais posez-vous la question, vous aussi, frères et sœurs, et demandez-vous si vous avez vraiment vu ce que nous allons voir là, dans le verset que nous allons lire. Donc, Colossiens 3 et verset 13. Alors, sans doute que le verset 12 est la meilleure place pour commencer. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, aidez-vous, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Alors, si vous voulez comprendre réellement là, ce qui est dit ici, vous devez réaliser que ça parle ici aussi de paix. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Ah! Je pensais que c'était la paix qui était le lien de la perfection. Non, la paix est le lien de l'unité, et l'amour est le lien de la perfection. Alors, je n'ai pas le temps de vraiment expliquer cela, mais ça devrait quand même être assez clair. Dieu est amour. Si vous permettez un petit résumé ici, le lien du caractère parfait, ce qui recouvre tout, le ruban qui va attacher tout l'ensemble, ça va être l'amour. La paix, quant à elle, c'est cette espèce de colle qui permet aux gens de marcher ensemble. Ils sont en paix ensemble. Bien entendu, ils ont la joie et l'amour également. On poursuit au verset 15. Alors, si on lit d'une façon différente, « Et que la paix de Christ règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. » Alors, ça fait quand même un certain sens à la lumière de Éphésiens 4, 3, n'est-ce pas? Et soyez reconnaissants. Et ensuite, ça poursuit en disant que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, etc. En d'autres mots, laissez-les entrer. Permettez-lui d'entrer pour qu'elle règne dans vos cœurs. Alors Dieu va vous le donner. Il va vous l'accorder puisqu'il nous a appelés à la paix. Mais vous savez quoi, frères et sœurs? Je vais vous dire ce que j'ai dit à mon épouse et que je me suis dit à moi-même de nombreuses fois. Laissez entrer la paix de Dieu dans votre esprit, dans votre cœur. Laissez-la entrer. Cela va vous procurer quelque chose qui n'est pas comparable à quoi que ce soit d'autre. Quelque chose que vous ne retrouverez nulle part dans votre voisinage, et même ce qu'on pourrait appeler dans votre famille élargie, ou même dans la ville où vous habitez, dans l'État où vous habitez, ou même sur l'ensemble de la planète. Laissez la paix de Dieu entrer en vous. En soi, c'est un concept absolument incroyable si vous êtes capable de le recevoir, de le comprendre. C'est un peu comme choisir de craindre Dieu. Il y a un moment dans la grande équation où nous avons chacun une responsabilité à prendre et que nous choisissons de craindre Dieu. Nous choisissons de lui demander de la sagesse ou autre chose. Donc, vous choisissez de laisser la paix de Dieu entrer en vous. Ça sous-entend les mêmes choses qu'on avait apprises autrefois. On aime la loi de Dieu, mais vous devez la laisser entrer. Et si vous ne la laissez pas entrer, si on regarde l'autre côté de la médaille, tout simplement, elle n'est pas là. Si vous ne la laissez pas entrer. Je vais vous donner une clé. Si vous vous rappelez le début du sermon, je vais vous donner une clé pour vous montrer pourquoi vous devez faire ça. Ou, pour le dire d'une façon différente, c'est vous allez savoir pourquoi vous n'en avez pas beaucoup, et sinon, pourquoi vous devez faire cette chose-là. Est-ce que vous êtes offensé facilement, scandalisé, ou êtes-vous troublé par beaucoup de choses? Pas nécessairement être offensé contre d'autres personnes, là, ou contre Dieu, mais troublé par toutes sortes de choses. Contrarié, dérangé par votre horaire, monté contre telle chose ou telle autre, agacé par la circulation, constamment tourmenté en émoi ou, autrement dit, par un manque de tranquillité dans notre vie, constamment monté et pressé. Si c'est le cas, alors nous n'avons pas laissé la paix de Dieu régner dans nos cœurs. Nous avons été appelés pour régner. Donc, ça ne devra pas être un concept très difficile à comprendre, là. Nous allons paître les nations avec une verge de fer. Mais il y a d'autres sens aussi à ça, hein? Régner veut dire juger, hein? Établir un homme, dire ce que c'est, ce qui doit se faire. Donc, si la paix de Dieu règne dans vos cœurs, c'est un peu comme si elle était là comme un roi, ayant en main son sceptre. Hein, d'autorité. Elle est supposée posséder l'autorité sur toutes les autres choses dans votre esprit. C'est le roi. Alors, vous savez ce que ça veut dire. Christ est un roi. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors, réfléchissez, pensez comme faut ce que je vous dis ici. Pas ce que je vous dis, ce que Dieu vous dit. Que la paix règne dans vos cœurs avec autorité. Que cette paix ait l'autorité sur votre cœur. Ne croyez-vous pas que j'ai pensé beaucoup à ce verset-là? Je l'ai fait. Il fallait que je le fasse. Mais je ne sais pas si j'aurais pu le faire avec autant de profondeur, bien que j'y aie pensé de nombreuses et de nombreuses fois, et cela dans bien des circonstances différentes. Mais cette fois-ci, ça a réellement frappé fort, et j'ai été très encouragé de voir que le verset, en fin de compte, encourageait mon épouse. Pardon. Et ça a pris quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. J'ai été obligé de relire beaucoup ce verset-là parce qu'elle voulait absolument continuer. En conclusion, permettez à ce que cela arrive. Parce que si vous ne le faites pas, ça signifie que c'est quelque chose d'autre en vous qui règne. Ça peut être la séduction, ou la vanité, la jalousie, la convoitise, l'orgueil, ou n'importe quoi d'autre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser que la paix de Dieu puisse être en fait le roi de votre esprit, dans votre cœur? Réfléchissez-y. La paix de Dieu est supposée régner en roi dans votre esprit. Quand vous comprenez que c'est relié au Dieu de paix, que c'est inséparable de l'Évangile et que l'Évangile implique de régner dans le royaume de Dieu, ce ne doit pas être quelque chose qui est difficile à saisir. La parole de Dieu est un livre tellement vivant et excitant. On peut toujours parler des choses qui ne vont pas dans notre vie, ou des choses qui nous semblent injustes, par exemple, des choses que nous aurions désirées qui n'arrivent pas. On peut parler des verres qui sont vides à moitié ou au quart. Vous avez des gens qui vont parler des verres à moitié remplis ou à moitié vides. Il y en a qui vont vous dire un verre qui est vide au quart, d'autres vont vous dire il est rempli aux trois quarts. Et puis vous avez l'inverse, vous avez des gens qui vont regarder un verre, qui ils vont dire qu'il est rempli au quart, tandis que d'autres vont dire, même si c'est vrai, qu'il est vide aux trois quarts. Mais il y a des gens qui vont faire exprès pour dire qu'il est rempli au quart et non pas trois quarts vide. Vous pouvez avoir un verre qui est rempli à 90 %, mais comme on l'a dit, c'est deux choses. Il est aussi 10 % vide, ou comme celui-ci, qui est 20 % plein. Alors, de quelle façon est-ce que vous le voyez? Tout cela dépend de ce qui règne à l'intérieur de vous, sur ce qui règne, sur votre façon de penser. Alors, c'est peut-être un sujet un peu différent, mais c'est quand même un principe qui est utile, dépendant si vous êtes positif ou non. Alors, on ne parle pas ici de laisser entrer un sentiment humain de paix dans vos cœurs. On ne parle pas ici de Norman Vincent Peale, qui vous parlait de la puissance de la pensée positive. On parle de la paix de Dieu qui va régner comme roi dans votre esprit. Et c'est vraiment ce qu'on veut dire. Donc, si vous avez bien compris ce verset-là, c'est quelque chose qui peut changer vos vies, comme pratiquement aucun autre. Donc, Philippiens 4 maintenant. Philippiens 4. Alors, on recule une couple de pages et nous allons commencer au verset 6. En voilà un autre que j'ai lu je ne sais combien de fois avec mon épouse. Alors, on commence au verset 4 et il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur, en anglais on parle de modération, soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. On ne parle pas ici d'être imprudent, là. On parle de ne pas être surmonté par les préoccupations. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'ai sans doute lu ce verset-là 20, 25 fois dans les derniers mois. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont arriver comme elles sont supposées arriver. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alors, c'est plus que juste des prières légères ici. Et même plus que des prières ferventes, on parle de supplication, de vraiment plaider avec Dieu, avec des actions de grâce, le remerciant pour les choses qu'il vous a déjà données. Et si vous faites une telle chose, voici ce qui arrive. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un des éléments qui permet à la paix de Dieu d'entrer en vous et de ne pas vous énerver de ne pas vous inquiéter de rien, d'absolument rien. Vous souvenez-vous du sermon intitulé « Ce jour » Dans le fond, vous n'avez pas vraiment le droit de vous inquiéter au sujet du lendemain. Il est normal de pouvoir planifier et de penser au lendemain, mais pas de s'inquiéter. J'ai seulement qu'une chemise. J'ai besoin d'une chemise demain pour aller au bureau. Et puis, j'en ai pas. Mais j'ai pas le droit de m'énerver. Et puis, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais me lever à un moment donné. Et puis, et c'est là que je vais décider ce que je vais faire pour pas avoir une chemise. Non, c'est pas tout à fait ce que ça veut dire. Ça veut dire ne pas vraiment s'inquiéter, ne pas être anxieux. Hein, ne pas s'inquiéter pour rien. Et si vous, en quelque sorte, vous décortiquez les éléments du verset 6, tout en conservant le contexte du verset 4, qui est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Autrement dit, le Seigneur voit toutes les choses, il s'en vient. Et vous arrivez au verset 7 qui dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, toute intelligence. » Autrement dit, c'est quelque chose que vous ne pouvez expliquer. Et en réalité, frères et sœurs, en toute franchise, je dois avouer que je me retrouve dans une position où je sens des choses que je suis incapable d'expliquer. Bon, pas toujours. Je vous ai parlé de mon petit-fils hein, qui s'est confié, et je dois vous avouer que ce n'est pas toujours facile à entendre. Et c'est sûr que j'ai mes moments, comme on dit, de temps à autre. Nous sommes tous des êtres humains. Je viens d'une lignée de personnes très longues et qui sont relativement émotifs. Comme on dit, les larmes viennent faciles dans notre famille. Peut-être que je ne vous l'ai pas montré. Mais je ne suis pas toujours capable de les contrôler non plus. Mais je peux quand même vous dire que c'est une paix. Pas seulement pour vous, pour nous autres, pour ma femme aussi. Ou pour Mme Armstrong, ou comme David l'a réalisé, ou de tout serviteur de Dieu qui, à un moment donné, est obligé de s'apercevoir qu'il s'en allait par les chemins de toute la terre. Alors on sait qu'il est réservé à tout homme de mourir une fois. Mais cette paix dépasse toutes ces choses-là. C'est quelque chose que vous ne pouvez expliquer. On sait qu'Éphésiens parle aussi de l'amour de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre également. Pas besoin de se reporter. Or, on sait que Dieu a une compréhension, une intelligence infinie. C'est ce que la Bible dit, que son intelligence est infinie. Donc, si nous sommes capables de comprendre ça, c'est-à-dire que jamais nous ne comprendrons l'intelligence infinie de Dieu, parce que c'est des choses qu'avec ce qu'on appelle, nous, des esprits, des intelligences finies, nous ne pouvons comprendre ce qui est infini, bien que nous en comprenions le concept, on peut donc comprendre que le pouvoir de cette paix-là dans l'esprit humain est tellement grand que c'est quelque chose qu'on ne peut comprendre. Et c'est suffisant pour que nous voulions l'obtenir. Ça va être suffisant pour que le vouliez, si c'est si grand que cela. Alors je vous pose la question, ne devons-nous pas rechercher la paix et la poursuivre? Rechercher la paix avec tous et par-dessus tout, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Peut-être comprenez-vous pourquoi j'ai choisi ce sujet-là pour ce sabbat-ci. Jean 14 maintenant. Jean 14. Lorsque ce sermon sera affiché, il devra aider beaucoup de personnes, des milliers de personnes, des milliers qui ont entendu le sermon devant la mer Rouge. Et j'espère que s'il y en a qui entendent celui-ci et qui n'ont pas écouté le premier, que cela va les convaincre d'aller écouter l'autre sermon devant la mer Rouge. Et je dois dire que je suis très heureux. J'ai eu littéralement une marée de cartes de personnes qui ont entendu ce sermon et qui étaient heureux de l'avoir fait. Alors, c'est Jean 14 et au verset 27, et nous allons commencer par le verset 25. Alors, on est rendu au temps, au dernier moment de Christ sur la terre avant sa crucifixion. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la raison pour laquelle l'Église de Dieu a toute chose, parce qu'elle est conduite par l'Esprit de Dieu et non pas par l'Esprit de l'erreur. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà réfléchi à ça, il va vous enseigner toute chose. Et si jamais vous les oubliez, alors vous avez une promesse qui suit tout de suite, qui dit « Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, toutes ces choses-là ». Bien que ce ne soit pas le sujet du sermon, je peux dire que le peuple de Dieu pourrait retourner en arrière et aller rechercher tout ce qu'ils avaient appris dans le temps, par la bouche, par les enseignements de l'apôtre au 20e siècle. C'est le genre de choses qu'ils pourraient faire. Et c'est une promesse. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui vont le faire. Et de plus en plus, il y en a qui le font. Sans doute la majorité ne le fera pas, jusqu'à ce que la grande détresse arrive. Mais à ce moment-là, plusieurs y retourneront. Alors, cela peut nous consoler un peu. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est dans ce contexte-là que nous pouvons lire maintenant « Je vous laisse la paix ». Alors, quel genre de paix parle-t-on ici? « Ma paix ». « Je vous donne ma paix ». Qu'est-ce que ça signifie? Un homme qui était tellement en paix, il faut se rappeler que c'était le Fils de Dieu, il était tellement en paix, il a dû subir les plus horribles souffrances par flagellation et la mort. Rappelez-vous qu'il était trois choses. Il était Dieu, il était innocent et il n'avait jamais connu la mort, ayant été vivant de toute éternité. Imaginez l'ampleur de la paix qu'il avait en lui pour pouvoir subir tout ce qu'il a subi malgré son innocence complète, en plus d'être Dieu et de n'avoir jamais connu la mort. Puis il se retourne de côté et dit, « Voilà, c'est cette paix-là que je vous donne, la même paix que moi j'ai, et c'est celle-là que je vous donne. » Donc, quand vous parlez de la paix de Dieu qui règne dans vos cœurs, vous parlez d'exactement la même paix, la même qui a permis à Christ de traverser ses souffrances horribles. Alors, pouvez-vous imaginer jusqu'à quel point ça a été encourageant pour mon épouse d'entendre cela? Si vous ne quantifiez pas et ne définissez pas la paix de Dieu, si vous ne l'analysez pas, pour en arriver à la substance, alors ce n'est qu'un terme, qu'un mot. Même lorsque vous parlez de paix de Dieu versus la paix, le monde cherche la paix, mais il ne cherche pas la paix divine. Mais même si les hommes cherchaient la paix de Dieu, qui est totalement différente de la paix que les hommes signent lors des armistices, ou lors de cessez-le-feu et de trêve, lorsqu'ils font la paix, ce qui n'est pas la paix de Dieu, mais même s'ils la voulaient, ils ne peuvent avoir la paix de Dieu. Rappelez-vous, ça dépasse tout entendement. Ils ne peuvent pas l'avoir, à moins que ce soit Dieu qui leur donne. Mais il nous a appelés à la paix. Et nous avons l'esprit de paix en nous, hein, le fruit de l'esprit. Alors laissons-les entrer. Alors qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce que nous voulons laisser entrer? C'est exactement la même paix qui était en Christ au moment où il a combattu son dernier combat sur terre. C'est exactement la même paix qui pouvait découler d'un 40 jours de jeûne, alors qu'il a été affronté le seul autre Dieu de l'univers qui voulait le combattre et usurper son trône. Ce dernier ne voulait pas voir Christ devenir ce qu'on appelle le président élu. Il voulait s'emparer de son trône, tout comme les dictateurs le font. Le genre de dictateurs de pacotille qui ne veulent pas perdre leurs prérogatives. Donc, je vous laisse la paix. C'est merveilleux, mais quelle paix! Mais ça devient encore plus excitant, parce que le verset n'est pas fini ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Autrement dit, ce n'est pas comme le monde donne puis qui veut quelque chose en retour. « Je vous le donne gratuitement. » « Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Si vous avez la paix de Christ en vous, une paix qui peut vaincre toutes les inquiétudes et tous les tracas. Soyons clairs ici, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça pouvait bien être que de savoir qu'il verrait ses os exposés, alors que toute sa chair serait arrachée avec le sang qui giclerait? Croyez-vous qu'il n'a pas pensé à cela? Je peux vous dire qu'il y a pensé. C'est pourquoi il a dit, « Éloigne de moi cette coupe, mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. » Croyez-vous que Christ, en tant que Dieu de l'univers, qui a fait les muscles, ne savait pas ce que ce serait que de voir ceux-ci manquer d'oxygène? C'est la pire des souffrances connues de l'homme. C'est la raison pour laquelle les hommes sur la croix criaient en agonie tellement fort que les voisins ne pouvaient dormir, car ça leur prenait souvent plusieurs jours pour mourir. À tel point que parfois, quelqu'un devait prendre une échelle et aller leur couper la langue, afin que les autres puissent retrouver leur tranquillité, qu'ils puissent dormir. Croyez-vous que Christ n'a pas pensé à ça? Bien sûr, il a pensé. Et il a accepté son sort en notre faveur. Et il l'a fait en paix. Et il a dit, c'est cette paix-là, pas un autre genre de paix, c'est cette paix-là que je vous donne. Donc, frères et sœurs, vous devriez normalement comprendre davantage maintenant ce que représente la paix de Dieu. Alors, rendons-nous maintenant au chapitre 16. Chapitre 16 et verset 32. Assurons-nous que nous ne nous méprenons pas. Alors, c'est Christ qui parle ici. Il dit, « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue. Vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. » Alors, non seulement il va être obligé de traverser cela seul, malgré qu'il ait passé 3 ans et demi avec les mêmes hommes tout le temps, mais ils vont s'éloigner tout à coup comme des lièvres effarouchés. « Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Ensuite, il dit, « Je vous dis ces choses. » Alors, on parle de l'ensemble des choses qu'il a dites à ses disciples auparavant, là, parce qu'on arrive à la fin du chapitre, et à partir de 17, c'est une prière qu'il dit à son Père, et non pas aux disciples. « Donc, je vous dis ces choses. » Toutes les choses qu'il leur a dit, en commençant par la moitié du chapitre 13, « Afin que vous ayez la paix en moi. » Oui, c'est vrai, l'amour et la joie et la bonté et la maîtrise de soi, la tempérance et toutes les autres choses. Mais je vous ai dit ces choses. Alors, si vous voulez les lire, vous avez un peu de devoir à faire. Pendant le restant du sabbat ou demain matin, quand vous voudrez, vous pourrez reprendre tout ça et le lire. Alors, Christ leur parle premièrement, dans ce contexte ici, c'est pourquoi il dit, je vous dis, ces choses ici. Il parle de tout l'ensemble, bien sûr, mais d'une façon plus spécifique de ces choses-là, à partir de la moitié du chapitre 13. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Alors, si je suis capable de passer à travers tout ce que c'est qui s'en vient, alors je vous donne cette paix-là, pas la paix du monde, qui demande toujours en retour, je vous la laisse, elle est à vous, afin que vous ayez la paix en moi. Alors, rendons-nous maintenant dans 2 Pierre, au chapitre 3. 2 Pierre 3, vers la fin du livre. Alors, le verset 12 nous parle comment nous attendons et nous essayons de hâter l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses... » Alors, on sait que le monde, lui, n'attend pas ce genre de choses-là. Le monde regarde plutôt vers la nouvelle voiture, ou la nouvelle maison, ou le nouveau joie qu'ils vont s'acheter, ou encore la prochaine relation qu'ils vont établir, en attendant d'établir la suivante. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous, si vous devez chercher la paix et la poursuivre avec vigueur. Une des choses que vous comprenez maintenant, c'est que vous devez chercher et poursuivre non seulement la paix avec tous les hommes, mais vous devez poursuivre la paix de Dieu qui doit régner dans votre esprit et dans votre cœur, ce qui devrait aussi vous aider avec tous les autres hommes. Est-ce le genre de choses que vous recherchez? Et le faites-vous en vous appliquant? De façon à pouvoir être trouvé par lui, sans tache et irrépréhensible, dans la paix. Alors voilà une connaissance qui est importante et forte. Alors ce n'est pas ma connaissance, c'est celle de Dieu ici. Je suis très enthousiaste de pouvoir l'enseigner, en parler. Alors, quelques derniers versets maintenant. Romains chapitre 3. Romains 3 et au verset 17. Alors, tout cela devrait nous exciter au plus haut point en réfléchissant à ce que Dieu nous offre, seulement dans les quelques passages que j'ai couverts jusqu'à maintenant. Donc, Romains 3 et verset 17, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » On peut se demander comment est-ce qu'ils auraient pu. Ça commence au verset 10. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Les gens ne connaissent pas la voie de la justice. On sait que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Nul n'est intelligent, ne comprend. Ils ne peuvent pas comprendre non plus la paix de Dieu. Donc, ce n'est donc pas à propos de ça qu'ils parlent ici, bien sûr. En fait, ils ne comprennent absolument rien. Ils ne comprennent même pas le plan de Dieu. Nul ne cherche Dieu. Si vous cherchez Dieu, alors vous allez vouloir avoir son royaume de paix aussi. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il parle ici du monde entier. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Alors, l'aspic est le serpent le cinquième le plus venimeux du monde, est au Moyen-Orient. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Alors, il est impossible que vous le connaissiez avant d'être appelé à ce chemin-là. Mais vous ne pouvez pas non plus vivre cette expérience-là après que vous avez été appelé à cela, à moins de le laisser entrer en vous. Et une fois que vous l'avez laissé rentrer, il est important que vous sachiez ce que vous avez laissé rentrer. C'est la paix de Christ qu'il nous a laissée avant de partir. Pouvez-vous être enthousiaste à ce sujet-là? Je peux vous dire que cela m'aide énormément. Et cela peut vous aider aussi de la même façon. Même lorsque des choses que vous n'auriez pu jamais imaginer, dans n'importe quel scénario, vous arrivent. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs choses qui me sont arrivées dans ma vie qui ne faisaient pas du tout partie du scénario que moi j'avais écrit. Je suppose que j'aurais dû voir la possibilité de ce scénario-là, mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Mais franchement, quand je regarde, je sais que je ne suis pas le seul à souffrir de cela. Je regarde l'Église. Et j'ai regardé des centaines de cartes que j'ai reçues. Je sais que mes enfants et tout l'ensemble de l'Église souffrent. Il faudrait être aveugle pour ne pas constater cela. Donc, il y en a parmi vous, aujourd'hui, qui sont capables de ressentir ce que l'Église a traversé il y a 40 ans de cela. Et je sais qu'il y en a peut-être parmi vous, ça fait deux fois déjà que vous traversez la même chose. Je pourrais dire que techniquement, moi aussi, je l'ai traversé deux fois. Je dirais pendant une dizaine de jours. En avril 67, avec Mme Armstrong. Mais si vous laissez entrer en vous la paix de Dieu, vous allez être correct. Vous allez guérir et vous allez pouvoir poursuivre. On sait que cette vie, c'est comme l'herbe ou la largeur d'une main. Même moi qui est grand, même avec une grande main, ça ne fait pas très, très grand. Alors, Proverbe 3 maintenant, au verset 13 et au verset 17. Alors, je l'inclus parce que ça constitue un exemple. Rendons-nous là-bas directement. Je voulais en faire un résumé, là. Alors, rendons-nous à Proverbes, au chapitre 3. Alors, voici un exemple de quelques-uns des autres principes que vous devez approfondir si vous voulez comprendre la paix de Dieu. Alors, Proverbes 3 et verset 13. Comme je dis, c'est juste un proverbe au hasard, un peu, que j'ai laissé dans mes notes. Et je l'ai laissé là parce que ça va vous montrer jusqu'à quel point sa paix est merveilleuse. Donc, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, la compréhension. Et ensuite, dans les autres versets, on la compare à l'argent, à l'or, à des perles, aux rubis, à des richesses, à la gloire. Et au verset 17, il dit « Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. » Il y a donc une relation entre la paix et d'autres qualités de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Ça n'est qu'un exemple, j'aurais pu en tirer d'autres, plusieurs ailleurs. Alors maintenant, je ne veux pas que vous doutiez du tout de ma détermination. Je sais que j'ai une course à faire, un chemin à parcourir. Donc, ne doutez absolument pas que je suis déterminé encore plus que jamais. Et le peuple de Dieu a besoin de savoir que c'est comme ça que je pense. Et si je retourne à ma jeunesse, on avait pour l'habitude de dire, quand les temps sont durs, les durs se mettent en route. Chacun d'entre vous devait le faire, moi aussi je dois le faire. Cela ne change pas mes responsabilités, ma commission, ni mon poste. Et je veux que chacun d'entre vous comprenne cela, et bien entendu, le peuple de Dieu dans l'EDR et les autres qui pourraient éventuellement l'entendre. Il n'est pas question de se retirer ou de se mettre en position fœtale et pleurer sans arrêt. Nous avons un travail à terminer et il se poursuit au fur et à mesure que nous continuons d'avancer. Alors maintenant, rendons-nous dans 2 Corinthiens 13. Et nous allons conclure avec ce verset-là. C'est d'ailleurs le verset avec lequel nous avons conclu la conférence. Donc 2 Corinthiens 13 et au verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'ai écrit ces choses étant absent, afin que, présent, je n'aie pas à user de rigueur. Alors, Paul adoptait une attitude plus rigide avec les Corinthiens, hein, il était obligé. Selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour l'édification et non pour la destruction. Alors, Paul voulait les édifier, les construire et non pas les détruire. Autrement dit, il ne voulait pas leur faire mal. Au reste, ou finalement, frères, soyez dans la joie. Alors, c'était la dernière fois qu'il leur écrirait. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, hein, pensez de la même façon. Et si vous devez avoir les mêmes sentiments, autrement dit, marcher dans l'unité, alors de toute évidence, vous devez vous attendre à ce qui est écrit, que vous avez sans doute deviné jusqu'à maintenant. Vivez en paix. Tous et chacun de nous devons vivre en paix, car il va y avoir beaucoup d'agitation dans les autres endroits. Et là, je ne parle pas des autres groupes ici nécessairement, là. Je parle de partout. Et si vous faites cela, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Donc, vous avez votre rôle à jouer, vous avez votre part à faire, tout comme moi. Rappelez-vous que le christianisme n'est pas un tour en tapis volant, là. Un endroit où vous vous asseyez, où on vous attache, et que tout le reste est fait automatiquement. Donc, perfectionnez-vous et consolez-vous. Ou en anglais, c'est « soyez parfait ». Et cette consolation-là, ben, en passant, vous provient du Consolateur, qui lui aussi vous apporte la paix. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera toujours avec vous.